Merci d'écouter RFI, les 22h30 à Dakar et Yamoussoukro, 23h30 à Paris.
Afrique Soir.
La dernière édition d'Afrique Soir, c'est avec vous, Pierre Boudias. Bonsoir Pierre et bon réveillon.
Bonsoir Mathis, merci à vous. Les chefs d'État du continent se livrent à l'exercice des feux de fin d'année. Rétrocession de la base de Port-Bouët en Côte d'Ivoire. Départ des forces étrangères au Sénégal. Promesse d'élection au Gabon. On fait le point sur les grandes annonces de fin d'année dès le début de journal. La triple élection tchadienne a-t-elle été entachée d'irrégularités? Oui, selon les observateurs du consortium d'organisation de la société civile, l'Agence nationale de gestion des élections assure ne pas avoir eu connaissance de fraude avérée. 2025 sera-t-elle l'année de la transition en Guinée? Le dossier d'Afrique Soir se penche sur la situation politique dans le pays où le processus de retour à la démocratie prend du retard et où l'opposant Aliouba passe la nuit en prison. Et puis qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Tenues ou non, elles sont souvent prises le soir du réveillon. Petit florilège des défis que se lancent les habitants de Dakar à retrouver en fin de soirée. Le président ivoirien termine 2024 avec une annonce d'importance. Elle concerne la base de Port-Bouët que les forces françaises vont quitter dès le mois de janvier. Alassane Ouattara l'a annoncé ce soir dans son traditionnel message de fin d'année où il n'a pas dévoilé ses intentions en vue de la présidentielle. Abidjan, Benoît Almeras.
60 secondes, c'est le temps que le chef d'État ivoirien a consacré à la présidentielle dans son allocution. Le temps pour Alassane Ouattara de rassurer ses compatriotes, mais aussi les partenaires étrangers du pays. Les élections seront apaisées, transparentes et démocratiques. Une priorité pour le président ivoirien, consolider les acquis enregistrés depuis 2011 pour continuer la marche de la Côte d'Ivoire vers le développement. Fin de citation. Aucune déclaration d'intention donc en vue du scrutin d'octobre 2025. Alassane Ouattara s'est concentré sur le bilan de l'année écoulée et sur les perspectives d'une croissance économique à 7% en 2025. Une annonce toutefois, la rétrocession de la base française du 43e bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët. Elle sera effective dès ce mois de janvier. L'emprise sera rebaptisée Ouattara Thomas d'Aquin du nom du premier chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, un camp qui sera désormais celui des forces armées ivoiriennes. Benoît Almeras, Abidjan. RFI.
Et un exercice de fin d'année auquel s'est également livré le président de transition gabonais dans son message de vœux à la nation. Brice Oligui Nguema a dressé un bilan positif de la transition qui prendra fin dans 8 mois. L'auteur du coup d'état du 30 août qui a balayé le régime des Bongo père et fils s'est dit satisfait d'avoir réconcilié les Gabonais et de se réapproprier les secteurs clés de l'économie nationale, notamment le pétrole, le bois, les transports. Il a surtout une nouvelle fois tenu à rassurer sur le respect du chronogramme de retour à l'ordre constitutionnel. Écoutez.
Mes chers compatriotes, pour l'année 2025, nos priorités sont claires. La fin de la transition sera marquée par des élections libres et transparentes. Le calendrier sera strictement respecté. Notre démocratie en sortira renforcée. À cet effet, j'invite tous les citoyens en âge de voter à s'inscrire massivement sur les listes électorales, conformément aux prescriptions du ministère de l'Intérieur en charge de l'organisation des élections. La révision de notre fichier électoral est l'affaire de tous.
Des propos recueillis par notre correspondant Yves-Laurent Goma. Au Sénégal, c'est la question de la souveraineté qui était au cœur du discours de Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État a une nouvelle fois annoncé la fin de toute présence militaire étrangère dans le pays d'ici 2025. Un discours dans la ligne de celui du 28 novembre dernier, lors duquel il avait annoncé la fermeture des bases françaises du Sénégal sans donner de date précise. Le président sénégalais assure que tous les amis du pays seront traités comme des partenaires stratégiques dans le cadre d'une coopération ouverte, diversifiée et décomplexée. Fin de citation. Au Tchad, le président Idriss Déby est lui une nouvelle fois revenu sur la fin du partenariat de coopération avec la France. Discours de fin d'année alors que le pays est toujours dans l'attente des résultats pour le scrutin législatif communal et provincial de dimanche. On attend également les chiffres officiels de participation. Dans le même temps, les premières accusations de fraude et d'irrégularité ont été émises ce mardi. Elles émanent d'un consortium d'organisation de la société civile. La Ligue tchadienne des droits de l'homme, l'Alliance citoyenne pour les élections au Tchad et l'Observatoire des associations sur les processus électoraux avaient déployé 2000 observateurs dans tout le pays. Écoutez Gombo Brey Ouzibé, il est le chef de mission de l'OAPET.
J'ai constaté dans le 7e arrondissement où il y avait un groupe des femmes qui sont transportées par un candidat. Il faut le nommer, le candidat du MPS, qui les transportait d'un bureau de vote à un autre bureau de vote. Qu'est-ce que ces gens faisaient? Si ce n'est pas pour aller bourrer les urnes. Cette pratique nous a été rapportée par nos équipes dans le 8e, également dans le 6e. Bref, partout sur le territoire national, à Abéché, où on a surpris, dans une maison, les gens avaient des bulletins vierges qui remplissaient au nom du MPS. Dans le Fitré, le président du bureau de vote a été surpris en train de bourrer les urnes pour le compte du MPS, ce qui a suscité la colère des autres candidats, et ça a mal tourné. À Moundou, les électeurs se sont rendus compte à l'heure de déploiement que les urnes étaient déjà remplies d'avance et ils ont dû brûler ces urnes. Ça ressemblait à tout sauf une élection crédible.
Des propos recueillis par Victor Moria, notre correspondant qui a également pu contacter l'Agence nationale de gestion des élections. Elle a organisé ce scrutin et son président Ahmed Bartchiré assure que l'ANJ n'a pas eu connaissance de ces accusations d'irrégularité.
Nous n'avons reçu aucune plainte d'un parti politique quel qu'il soit, que ce soit le MPS ou que ce soit les autres partis. Donc, à partir de ce moment, nous, on a retenu que ces élections se sont déroulées dans de bonnes conditions. Moi, personnellement, je pense que c'est une réussite. Il y a des pressions des partis politiques, ça existe. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu de pression du tout. Bon, il y a eu quelques petites pressions. Oui, on voudrait que le candidat, pourquoi celui-là, son bulletin n'a pas été mis de ce côté, pourquoi c'est mis de l'autre côté. Bon, ça, c'est des petits incidents qui sont réglés immédiatement, automatiquement, par les démembrements même de l'ANJ sur place, qui ne sont même pas remontés jusqu'à l'ANJ ici à N'Djamena, parce que bon, c'est des petits incidents qui sont circonscrits sur place.
RFI, nous sommes le 31 décembre 2024, il est 22h37 à Conakry et en Guinée, la transition telle que prévue par le chronogramme initialement présenté par les autorités militaires aurait dû se terminer dans moins de 2 heures. La fin du processus de retour à l'ordre constitutionnel a depuis été repoussée à une date toujours inconnue. C'est dans ce contexte que l'opposant Aliou Ba va passer la nuit en prison, ouvert ce matin à Conakry. Le procès pour offense et diffamation contre le chef de l'État du dirigeant du Modèle a été renvoyé au 2 janvier. Aliou Ba est une des voix politiques les plus critiques de la junte du CNRD et de la conduite de la transition. Il dénonce un procès politique et rejette en bloc les accusations portées contre lui, Sidi Yansané.
C'est avec des extraits des nombreuses vidéos publiées sur ses réseaux sociaux que le ministère public justifie les poursuites contre Aliou Ba. Durant cette première audience, le tribunal de première instance de Kaloum a diffusé les vidéos concernées dans lesquelles l'opposant dénonce les kidnappings en série ainsi que le silence des guides religieux sur la répression généralisée en Guinée, mais selon ses avocats, aucun propos offensant ou diffamatoire contre le président de transition Mamadi Doumbouya n'a été prononcé par Aliou Ba. Maître Pépé Antoine Lama considère ce procès, je cite, comme une cabale pour faire taire son client, en utilisant le fallacieux prétexte d'offense au chef de l'État. L'avocat parle d'un procès politique et d'une détention arbitraire d'Aliou Ba en expliquant que plusieurs dysfonctionnements entachent la procédure judiciaire et ce, dès l'arrestation de l'opposant. La défense d'Aliou Ba ne voit pas d'autre issue que sa relaxe pure et simple jeudi prochain.
Sidi Yansané, cette situation guinéenne préoccupe de nombreux observateurs régionaux et internationaux. Parmi ces voix qui s'élèvent pour appeler à remettre la transition sur les rails, celle d'Achille Mbembe, président de la Fondation de l'Innovation pour la Démocratie. Dans un communiqué publié suite à l'arrestation d'Aliou Ba, il juge la situation dans le pays alarmante. Écoutez-le, il répondait aux questions de Nicolas Sour dans Afrique Midi.
Le colonel Doumbouya a pris le pouvoir par la force en 2021. Il a promis à l'époque de rendre le pouvoir aux civils en 2024. Tout indique que cette promesse ne sera pas tenue, alors même que s'ouvre une intense période de répression, tous azimuts, qui s'est traduite par l'arrestation récente de M. Aliou Ba, l'un des principaux leaders de l'opposition guinéenne.
Et également des militants de la société civile Fonike Mengue et Mamadou Biloba, dont on est sans nouvelles depuis le mois de juillet.
On est sans nouvelles depuis le mois de juillet. Enlèvement, arrestation arbitraire, détention, pratique de la torture dans certains cas. On avance en Guinée vers une direction assez troublante qui ressemble à s'y méprendre à l'époque que la Guinée a connue lors du régime sanguinaire, il faut le dire, de Sékou Touré.
La Guinée n'est pas le seul pays concerné. Vous parlez de répression croissante, notamment dans les régimes militaires de toute la sous-région africaine, répression de toute voix dissidente. En matière de respect des droits et libertés, l'année 2024 marque-t-elle pour vous un tournant ou une accélération dans ce domaine?
Je crois que les choses sont à la fois simples et complexes. Elles sont simples dans la mesure où l'espace des libertés fondamentale et publique est en train d'être rétréci à la fois dans les régimes militaires sahéliens et les régimes autoritaires de l'Afrique atlantique. Dans ces conditions, le cas de la Guinée en particulier, il faut que le colonel Doumbouya ait le courage de créer les conditions d'un dialogue. Ce dialogue suppose que soient bâtis des compromis pour que, ensemble, le peuple guinéen puisse trouver une issue inclusive à la transition. On ne peut pas trouver cette issue si, effectivement, la stratégie consiste à arrêter, à détenir de façon arbitraire les opposants, à en enlever un certain nombre et à briser, en tout cas, le peu de légitimité que ce régime détient au regard du peuple guinéen.
Achille Mbembe, il était au micro de Nicolas Sûr. Un baobab, un soleil, trois étoiles, l'Alliance des États du Sahel possède désormais son logo officiel. L'AES est également dotée d'une devise, un espace, un peuple, un destin. Ces nouveaux attributs de l'organisation formée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont été validés et dévoilés hier soir par les autorités militaires des trois pays avec des communications officielles dans les médias d'État. Alors comment lire et comprendre ce logo et cette devise de l'AES? Explication David Baché.
Le cercle orange, c'est le soleil du Sahel. Sous les branches protectrices du baobab, des silhouettes expriment la diversité et l'union des populations. Les trois étoiles dorées représentent enfin les trois pays alliés, Mali, Niger et Burkina. Un espace, un peuple, un destin, la devise de l'AES se veut fédératrice. Soumaïla La est enseignant-chercheur et analyste politique à Bamako.
Dans l'absolu, c'est une très bonne chose, mais sauf que ces trois États, et de façon particulière le Mali et le Burkina, ont eu des difficultés à des moments donnés de l'histoire, dire que c'est le même peuple, le même destin, je ne le pense pas. Il y a peut-être une volonté d'aller vers un même destin, c'est possible, mais le même peuple, les États en leur sein déjà connaissent des clivages entre les populations qui les composent, a fortiori au-delà de leurs propres frontières. Donc je vois plus la devise comme un vœu que comme le reflet de la réalité.
Aux populations de l'AES, cette devise et ce logo sont censés inspirer un sentiment d'appartenance et de fierté. Le message dépasse même les frontières sahéliennes. Soumaïla La.
Le message est surtout envoyé à la communauté internationale, notamment à la CEDEAO, qui essaye de mettre son vatou pour que les trois États restent en son sein. Ce message est de nature à conforter, on va dire, les positions de ces autorités-là sur leur volonté de quitter la CEDEAO.
Enfin, une radio et une télévision officielles de l'AES seront accessibles sur Internet à une date qui n'a pas encore été annoncée.
David Baché. Le Zimbabwe abolit la peine de mort. Le président Emmerson Mnangagwa officiellement commué ce soir en peine d'emprisonnement. Les condamnations à la peine capitale d'une soixantaine de personnes. La loi sur l'abolition de la peine de mort stipule désormais que les tribunaux ne peuvent pas prononcer de peine capitale pour quelque infraction que ce soit. Le Zimbabwe devient ainsi le 24e pays à avoir mis fin aux exécutions judiciaires en Afrique subsaharienne. À Madagascar, plus que deux jours pour aller découvrir cette belle expo photo à Antananarivo. Elle raconte l'exil des Mikéas, un peuple de chasseurs-cueilleurs du sud-ouest de la grande île. Une population victime du défrichage des forêts sèches qui tente de préserver sa culture. Reportage Guillaume Fabry.
Autour du feu, le soir, en chantant, les Mikéas se remémorent leur vie d'avant, explique le photographe Andy Rasoulavoun. En quittant la forêt, ils ont dû s'adapter à de nouvelles pratiques.
Quand ils étaient dans la forêt, ils mangeaient beaucoup de tubercules, des petits animaux comme des hérissons, des oiseaux. Maintenant, l'élevage leur sert à vendre les animaux pour racheter des aliments. Le fait de sortir de la forêt les force à utiliser par exemple l'argent. Et c'est aussi pour faire les papiers par exemple, faire les actes de naissance, chose qu'ils n'utilisaient pas avant.
Originaire d'Antananarivo, Emmanuel Razavinjakutu s'est mariée avec un notable traditionnel Mikéa et vit dans la communauté depuis 9 ans.
Les anciens et les adultes ont beaucoup de nostalgie de leur ancienne vie en forêt. Il faut savoir que la culture d'un peuple va de pair avec son habitat naturel. Les Mikéa furent forcés de se sédentariser. Avant, ils étaient semi-nomades, mais se déplaçaient dans la forêt. Mais maintenant, mon mari Tivaour a décidé d'enseigner aux enfants la culture Mikéa. Nous l'avons intégré dans le programme scolaire de l'école du village. Il emmène les enfants en forêt pour qu'ils apprennent tout ce qu'un Mikéa doit savoir.
Malgré les bouleversements qu'ils subissent, les Mikéa espèrent, grâce à cette transmission, que leur culture ne disparaîtra pas. Guillaume Fabrion, Tananarive, RFI.
Une exposition à découvrir donc jusqu'à ce jeudi à Antananarive. RFI, il est 22h45 à Dakar et si vous êtes dans la capitale sénégalaise, il ne vous reste que quelques heures pour prendre les bonnes résolutions en vue de 2025. Alors qu'elles soient de dernière minute ou mûrement réfléchies, les Dakarois les appliquent-ils vraiment? Notre correspondant Gwenda Lavina leur a posé la question.
Ça me permet de recommencer tout à zéro. Donc j'aimerais m'investir sur le sport, les livres notamment aussi, pour l'intellect. Professionnellement aussi, je vais essayer de trouver du travail.
Arrêter de fumer pour 2025, mieux épargner. C'est pas toujours facile d'y arriver, mais avec la bonne volonté et la persévérance, on y arrive généralement.
Tous les jours, on vit par rapport à nos défis. C'est-à-dire, c'est le lendemain déjà, je saurai, ou bien avant de dormir, je saurai déjà ce que je dois améliorer. Donc, je ne dois pas attendre l'année prochaine pour changer de choses.
Résolution pour 2025, changer de vie carrément, que ça soit sur le plan professionnel, personnel, social.
Et est-ce que vous les tenez, ces résolutions en général?
Bien sûr. Après, ça dépend, vu qu'il y a le destin, il faut s'accrocher, voilà. Et vivre l'instant présent.
Par moments, c'est des choses qui te viennent dans la tête, comme toute personne, tu te projettes, il y a des réalisations et choses, donc je trouve que c'est normal.
Non, je suis pas dedans, vraiment, c'est pas moi.
On a vécu l'année 2024 et on va dire bienvenue 2025, j'espère que ce sera meilleur.
Et puis vous nous écoutez peut-être en attaquant le dessert de votre repas de réveillon. En Centrafrique aussi, le nouvel an se fête en famille et entre amis, souvent autour d'un bon repas, direction le KM5 dans le 3e arrondissement de Bangui, où Ousmane Dida a décidé d'ouvrir ses portes à ses voisins du quartier pour la Saint-Sylvestre, mais également à notre reporter Rolf Steve Domialeux.
Dans la salle à manger, tout est installé comme dans un restaurant. Ce soir, c'est Ousmane qui invite ses voisins autour d'un repas afin de partager ce moment convivial.
Ce qu'on doit manger, on mange ensemble. C'est le poulet, la viande, le riz. Il y a des poissons, on prend des jus. S'il y a de l'eau à boire, on partage ensemble.
Autour de cette table, tout le monde s'apprête pour la traversée. Lionel est en train de vivre le meilleur réveillon de sa vie.
Je partage ce moment avec mon voisin parce que à chaque temps on sort, on part dans nos activités. Mais aujourd'hui, avec cette fête, on a décidé de se réunir ensemble pour partager un peu de repas, un peu de vin de palme. Il y a les vœux de fécondité. La fécondité parce que la population centrafricaine n'est pas beaucoup.
La conversation est animée ce soir. Chacun parle de sa famille, de l'année écoulée et des projets. Anila est ambitieuse.
Depuis début décembre, on s'est dit qu'on doit faire le bilan. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas réalisées en 2024. Donc je me suis préparée pour que d'ici mars, je réalise et que j'entame le nouveau projet de 2025.
Pour ces derniers, 2025 est une année de paix et de prospérité. Rolf Esteve Domialeux, Bangui, RFI.
RFI, bonne année si vous nous écoutez depuis Niamey, Lagos ou Kinshasa, où il est déjà minuit 48.
Afrique Soir, Pierre Boudias.
Et Afrique Soir, la dernière, ça continue jusqu'à 23h en temps universel. Une itinérance dans cette édition pour commencer entre le Sénégal et le Maroc. Deux pays aux échanges commerciaux florissants. Et si la route reste pour le moment le chemin privilégié, la voie maritime est en pleine expansion. Reportage à suivre dans Afrique Echo. Et puis, comment ne pas nous quitter en musique en ce 31 décembre? C'est DJ Facemaker qui nous accompagnera jusqu'à minuit, heure de Paris. Hervé Mandiba nous a sélectionné ses pépites de l'année. Restez avec nous. Ça peut servir pour aller jusqu'au bout de la nuit. Ouais, c'est ce qu'on appelle une relation au beau fixe, celle qui unit le Maroc et le Sénégal. Le royaume chérifien écoule de nombreux produits en direction du pays de la Teranga, comme des matériaux de construction ou encore des agrumes. Une ligne commerciale qui passe aujourd'hui principalement par la route. 70 camions arrivent chaque jour au Sénégal. Mais l'avenir pourrait bien se trouver sur mer, une voie maritime en plein développement pour réduire les temps de transport et les coûts. Cette nouvelle ligne entre dans une stratégie d'intégration régionale du Maroc, mais pourra également offrir des débouchés pour les produits sénégalais. Le reportage est signé Juliette Dubois.
Nadji Boujma remplit chaque semaine un camion de marchandises qui fait l'aller-retour entre le Sénégal et le Maroc.
Il y a trop de marchandises qui viennent du Maroc. Les peintures, les câbles. Par contre, depuis le Sénégal, on amène juste les effets personnels. Il n'y a pas une marchandise vraiment.
Il faut compter plus d'une semaine de trajet entre Casablanca et Dakar en comptant les jours d'attente aux frontières. Un trajet coûteux et lourd en démarche pour ce Marocain installé au Sénégal depuis 15 ans.
Par terrestre, il y a de Gazoua. Ça coûte 1800, 2000 euros aller-retour. Hein. Et à partir de ça, il y a la frontière de Mauritanie. Tu payes le score pour 500, 600. Ça dépend de la volume de marchandises. Il y a un peu de rangement quoi, au niveau des frontières. Il y a des tables de vérification des bagages, il y a des visites, il y a du scanner.
La société britannique Atlas Marine, qui lance la nouvelle ligne maritime Agadir-Dakar, promet d'effectuer ce trajet en 2 jours et demi et assure qu'elle proposera un tarif compétitif. Un bateau d'une capacité de 110 camions avec les chauffeurs fera la liaison une fois par semaine à partir de fin janvier.
Là, maintenant, on aura des produits plus frais hein, que d'habitude.
Lalou Sidi Mohamed, président du club des investisseurs marocains au Sénégal.
C'est une excellente initiative.
La ligne renforce les bonnes relations entre le Sénégal et le Maroc, signataire d'une convention d'établissement depuis 1964 qui garantit les mêmes droits aux citoyens dans les deux pays. Elle entre aussi dans une stratégie plus large de développement marocain vers l'Afrique subsaharienne.
Cette ligne maritime pourra desservir avec les camions qu'elle pourra transporter, desservir les pays du Sahel, ces pays qui n'ont pas accès à la mer.
Côté Sénégal, une liaison régulière avec Agadir permettrait de rééquilibrer la balance commerciale très déficitaire. Les importations en provenance du Maroc atteignaient 123 milliards de francs CFA en 2023, contre 19 milliards pour les exportations. Les produits de la Casamance en particulier pourraient être écoulés plus facilement. Abdoulaye Sow, président de la Chambre de commerce de Dakar.
Nous avons pensé à un moment donné de pouvoir les envoyer des mangues, des noix d'acajou, des produits séchés. Et tout ça se trouve à Jigenchor. Donc si quand même les camions sont venus à Dakar, donc ils peuvent passer sur Jigenchor pour pouvoir vraiment amener des produits sénégalais.
Abdoulaye Sow souhaite donc que la ligne aille jusqu'à Jigenchor. Lalou Sidi Mohamed, lui, rêve qu'elle soit ouverte pour les passagers. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Il est 23h52 ici à Paris. Allez, branchez vos casques, allumez vos écouteurs et montez le son. On se quitte maintenant en musique dans Afrique Soir. Et une date qui n'aurait pas pu mieux tomber que le jour où l'ambianceur d'Afrique Soir est avec nous dans ce studio. C'est évidemment Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Pierre, on aurait dû se mettre sur nos 31, dis donc.
C'est vrai, mais on va découvrir ensemble vos toutes dernières recommandations afro-urbaines de l'année 2024. Elle a été riche en bonne musique à travers le continent, à commencer par le chanteur nigérian Asake et son album étincelant Lungu Boy.
Oui, un album de 15 titres qui a littéralement perturbé les auditeurs par son extrême variété de compositions, de mélodies, de paroles et de personnalités. Oui, de personnalités, car Asake a enregistré pas moins de 5 collaborations avec Wizkid, Ludmilla, Central C, Stormzy et Travis Scott. C'est avec ce dernier qu'Asake a écrit d'ailleurs Active. Forcément, vous l'avez entendu partout durant les grandes vacances, n'est-ce pas, Pierre ?
Oui. Et oui Hervé, on se souvient évidemment de ce morceau du Nigérian Asake. On enchaîne à présent avec la chanteuse ougandaise Azawi qui réalisait au mois de février sa chanson à succès Massavu.
Oui en effet, Azawi n'est pas passé inaperçu avec sa chanson Massavu qui a été l'objet d'une polémique à cause d'une intelligence artificielle. Alors une première version de la chanson avait fuité sur internet. On entendait la voix du chanteur Mosé Radio décédé décédé en 2018. Évidemment que cela a semé le doute sur le véritable interprète du morceau, obligeant l'équipe de Swangs Avenue, le label d'Azawi, à réagir en publiant une version a cappella du morceau avec la voix d'Azawi cette fois. Azawi, le doute n'est plus permis. Au Sénégal, c'est la jeune prodige Diela qui s'est illustrée avec son deuxième single de l'année, Doflo Ngama.
Oui, le moins que l'on puisse dire, c'est que Diela a fait sensation au Sénégal avec Doflo Ngama. Pour une chanson qui n'est sortie qu'au mois de juin, elle est devenue virale très rapidement et la chanteuse sénégalaise a enchaîné les records d'écoute en ligne ou de streaming, comme on dit en bon français. Diela est sans aucun doute parmi les artistes sur qui il faudra compter en 2025. Ma belle yow la du ken yow la do flow ngama man ki mata na yow la ngano maraw la du ken yow la do flow ngama ya mako damal ya mako jangal yow ni nga andal do flow ngama la xbilu mu tang tang ken du mako rajal li nga jantal do flow ngama.
S'envole de l'autre côté de l'Atlantique. Maintenant, sur le continent américain, c'est le phénomène Iggy Marley qui s'est illustré avec la chanson « Vais-je y arriver ?» « Praise Jah in the Moonlight ».
Oui, alors c'était simplement le morceau reggae le plus populaire de l'année. L'héritage de Bob Marley est bien une affaire de famille, puisque YJ Marley, dont le vrai nom est Joshua Marley, est non seulement le petit-fils de Bob, et il est le fils de Miss Lauryn Hill. L'ex-chanteuse des Fugees a d'ailleurs coécrit le morceau « Praise Jah in the Moonlight ». Notez que YG est le seul Marley qui n'a pas de locks. These roads of flames are catching a fire. Ah.
Pour conclure votre bilan de l'année, Hervé, direction le Burkina Faso avec le rappeur Smarty et la chanteuse Korka Dieng, célèbre choriste du rappeur sénégalais Didier Awadi.
Oui, tous les deux ont écrit le morceau « Ne parle pas ». C'est un peu la recommandation de l'année à venir d'ailleurs. On connaît Smarty et ses textes engagés, la chanson a été bien exploitée et le public s'y est retrouvé. Smarty appelle ceux qui veulent réussir leur vie à garder le silence sur leur projet. « Ne parle pas de tes projets, garde-les dans le secret. » En silence se construit, et ta réussite fera du bruit. Hey, ne parle pas de tes projets, avance dans le silence. Ne vois-tu pas tous les dangers, tiens la langue loin de la confiance. Tu parles trop de tes envies, t'exposes tes ambitions. Le lionceau qui fait trop de bruit devient une proie pour le faucon. Donc silence sur tes ouvrages, silence sur tes voyages. Sans rien dire, fais tes bagages vers le succès et ses ombrages. Protège-toi de tes paroles, elles n'attirent que des problèmes. Tu ne joueras pas de grand rôle si tu crois que tout le monde t'aime. Ne parle pas de tes projets, garde-les dans le secret. En silence se construit, et ta réussite fera du bruit. Ne parle pas de tes projets, garde-les dans le secret. En silence se construit, et ta réussite fera du bruit. On n'aime pas les ambitieux, les personnes qui se projettent. Les bâtons, les courageux sont les miroirs que l'on rejette. Les sourires sont mesquins quand tu parles de tes défis. Tu ne seras jamais quelqu'un aux yeux de l'envie et du mépris. Donc tais-toi sur tes promesses, c'est comme ça que les gros naissent. Sois discret sur tes prouesses, c'est le silence de la noblesse. Les grandes choses ne font pas de bruit, les grands hommes sont muets. Ta vision sera accomplie si tu parles moins, je te promets. Ne parle pas de tes projets, garde-les dans le secret. En silence se construit, ma réussite fera du bruit.
Et c'est donc Hervé Mandina, alias DJ Facemaker et ses pépites qui ont l'honneur de clôturer la dernière édition d'Afrique Soir en 2024. Merci à tous nos auditeurs pour une nouvelle année à l'écoute de RFI. Cette dernière a été préparée par Sabine Mellet, Thomas Yayani et Steve Elsie. Dans un instant, le premier journal de 2025, la fête dans le monde et les vœux des chefs de l'État, bien sûr, à la une.
Priorité santé. Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Demain, l'éducation thérapeutique du patient. Pourquoi est-elle particulièrement recommandée en cas de diagnostic de maladie chronique ? Jeudi, la listeria et les salmonelles. Comment se prémunir de ces bactéries ? Quels sont les symptômes qui doivent alerter ?
Priorité santé
avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi, à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie. Demain, enseignants, apprenants, quelles sont les nouvelles dimensions de l'éducation ? Que faut-il apprendre à l'école aujourd'hui ? Jeudi, émission spéciale double culture et recherche d'emploi. Avantages ou désavantages ? Conseils aux jeunes diplômés. 8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à partir de 10h10 TU sur RFI.